Sifflement de serpent. Horloge sonnant. Bruit de feuillets qu'on arrache. Bruit de cruches qu'on casse et brise et... glou-glou de l'eau qui fuit. Je chantais fort peu, mais en revanche, je produisais beaucoup de bruits de bouche. Chuintement, sifflement, grincement. Son organique, modulé, libérateur, éclatant, distordu, que l'on retrouve un peu partout dans ma musique. J'aimais courir aussi. Courir est un cri qui se poursuit.
Maximum.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'Alaga.
Vive mon
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Des mises à mort, des mises en biais. Si et si et redis.
le plante là par la racine, bois 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 le plante là par la racine,
vaut mieux les savoir, le voilà, vaut mieux les savoir.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 à Paris, et radio-libertaire.net dans le monde entier. Et à Temps Rouge, nous accueillons aujourd'hui Anne Waro dans les Oreilles Libres. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors Anne, on vient d'écouter le morceau In Utero, extrait de Bleu. On va en parler. On t'avait reçu le 14 février 2020. Le temps passe. Cette émission est en ligne sur notre site. À l'époque, tu avais sorti ton premier album intitulé Anne Waro. Et depuis, sont sortis un deuxième disque, Longose. Et puis, le 23 février dernier, Bleu. Et tu joues aussi désormais dans le quartet Lagon Noir avec lequel tu seras ce soir, vendredi 29 mars, au festival Banlieue Bleue à La Courneuve.
Oui, c'est ça.
Tu habites La Réunion, tu as toujours vécu là-bas?
Oui. J'ai toujours vécu là-bas. J'ai une petite parenthèse de 4 ans au Québec, mais j'y suis revenue très vite, quoi.
Alors, on a commencé avec le titre, comme je le disais tout à l'heure, In Utero Militari, extrait de Bleu.
Oui.
On est assez intrigué par le titre de cette chanson. Peux-tu nous dire de quoi tu parles?
C'est un peu il y a une grosse basse qui se pose comme ça. C'est, il y a une ambiance un peu de guerre intestine, un petit peu entre quelque chose qui est de l'ordre du cri viscéral et quelque chose de l'ordre de la modulation de ce cri, et puis de savoir comment on va articuler et ordonner, en fait, organiser une bataille. Une vraie bataille, un vrai combat à ce moment-là. Comment de l'oppression, on en vient à approfondir une réflexion et à prendre des initiatives et à faire face, à faire front, en fait.
Donc, ouais. Voilà. Il y avait déjà ce cri, dans le premier album.
Oui, le premier album était vraiment le cri en lui-même, qui commençait à être un petit peu nuancé, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de la poésie, il y avait des choses, c'était de la musique assez radicale, brute, donc trombone, percussion, voix, et avec beaucoup de on était sur le fil, beaucoup de place au silence, à la voix seule qui est rattrapée par le soufflant ou les percussions, et donc il y avait un côté nu comme ça, très très sur le fil, très funambule. Et fragile à la fois et très inconfortable parfois dans l'écoute. Et du coup, c'était cette parole aussi qui émergeait, qui était qu'il fallait assumer, puis qu'on devait parfois, quand on a une parole à sortir, elle sort un peu maladroitement, elle sort comme un cri. Alors celle-là était déjà un peu travaillée, mais j'ai voulu garder le cri le plus net possible. Et maintenant, après un deuxième album, Longoz, qui était plus autour du son, autour de comment se réapproprier cette matière du premier album et en faire un jeu presque, que le cri devienne matière de réflexion, et comment dans ce troisième album on en arrive à orchestrer ces choses-là et à rentrer dans une espèce de réflexion et à la fois sur l'intime, sur l'enfance, sur l'avancée des choses, comment en tant qu'adulte regarder cet enfant-là et dire bon bah comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'accueillir, pour le protéger, pour voilà, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, il y a comme un travail sur la distanciation.
Oui.
Ouais. Ok. Alors, peux-tu nous rappeler, parce que dans la première émission qu'on avait faite, tu nous en avais déjà parlé, mais bon, c'est toujours bien, un plaisir. Peux-tu nous rappeler quelle a été ta formation musicale ?
Elle a été assez autodidacte. J'ai été organiste quand j'étais toute petite, donc j'ai joué dans les églises. J'ai appris avec un frère le religieux, l'orgue. Et puis j'ai gardé un espèce de lien avec le piano, donc que j'ai appris en autodidacte. Et puis après j'ai eu un cursus de flûte traversière au conservatoire qui a duré quelques années. Voilà pour le parcours musical. C'était assez, j'ai commencé à. Pour moi, la flûte traversière était plus une prothèse qui m'empêchait de chanter. Et puis, du coup, j'ai commencé à chanter plus tard, en fait.
Oui.
J'ai pas eu. C'était plutôt un parcours autodidacte avec oui. quelques passages pour quand même apprendre le solfège et quelques notions. Mais le reste s'est fait assez naturellement.
Ben justement, tu parlais de chanter, tu parlais du chant. Comment le chant est-il venu?
Ben, le chant est arrivé par le corps. C'est-à-dire que je travaillais, je faisais la bande-son d'une pièce de chorégraphique d'une amie qui faisait sa première pièce. Et puis, en échange, elle me donnait des cours de danse. Et les cours de danse se sont très rapidement transformés en « moi, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça ». Et du coup, j'ai commencé à chorégraphier avant de me rendre compte qu'une fois la chorégraphie terminée, que ça parlait d'inceste et de violence, et que du coup je fasse un travail sur le texte pour accompagner cette proposition chorégraphique et que j'entame en fait ce travail-là. Mais le texte en lui-même, je l'ai travaillé à partir de ce moment-là en créole et en créole réunionnais. Qui est une langue à laquelle j'avais pas tout à fait accès parce que on parlait beaucoup, j'étais dans des écoles privées catholiques, on parlait beaucoup plus français, que les créoles étaient reléguées un peu à une seconde place, une langue qui était devenue en fait une langue de violence parce que mes parents la parlaient quand ils s'engueulaient ou quand ils nous engueulaient nous. Donc elle n'était pas associée à quelque chose de positif et tout d'un coup c'est se la réapproprier pour en faire quelque chose de qui est intrinsèquement lié à ce qu'on vit et à ce qu'on ressent. Et du coup c'est venu comme ça, et le chant est venu parce que les paroles que j'écrivais étaient trop dures à dire frontalement. J'avais besoin de les enrober, j'avais besoin encore de quelque chose pour un écran un peu, pour que les gens puissent se l'approprier à leur façon, sans être pris à partie, sans être frontalement confrontés à ce cri-là, en fait. Donc ça venait moduler déjà le cri, donc ça faisait une interface de plus, quoi. La mélodie vient contrer un peu la brutalité des mots, voilà.
Donc on peut parler d'écriture, l'écriture aussi c'est une activité créatrice en fait que tu pratiques, tu as pratiqué ça simultanément
bien en amont de la musique en
ouais.
fait, c'est la musique je l'ai commencé tôt quand même, mais ça a toujours été c'était pas une activité, c'était vraiment une façon de réfléchir, une façon d'appréhender le monde, c'était des outils. L'écriture est un outil de jeu, un outil de déploiement, un outil de réflexion et c'était plutôt une pas une démarche ni même c'était naturel pour moi d'écrire, c'était le prolongement de ma pensée, de ma réflexion, c'est de la mettre en forme, la mettre en voilà, pouvoir me distancier aussi des choses et créer des mondes aussi. Ça ouvre des libertés de jeu impressionnantes. Ça nous permet ce recul-là, cette distance, et en même temps de se faire surprendre parce qu'on croit écrire et finalement on écrit tout autre chose en arrière-plan. Et on apprend beaucoup sur soi dans l'écriture. Voilà.
Dans certains morceaux, tu as déjà un peu évoqué ça, mais je continue. Dans certains morceaux, tu dis le texte plutôt que de le chanter.
Oui.
Et quelle finalité ça a quand tu procèdes ainsi? Pour quelle raison de dire le texte plutôt que le chanter?
Parfois, ça permet de poser les mots autrement, de moins les enrober justement, de les poser pour ce qu'ils sont. Là où ils doivent être, et puis il y a quand même la musique qui reste en arrière-plan et qui permet d'avoir quelque chose autour qui nous accompagne, de prendre un peu les gens par les épaules, de les accompagner, mais il reste qu'il y a un besoin de frontalité quand même dans ce que je dis, dans le propos. On parle d'inceste, on parle de suicide, on parle de plein de choses, de la mort tout simplement qu'on accompagne ou qu'on subit. Ce sont des questionnements qui doivent être normalement abordés partout, il me semble. C'est quelque chose de l'ordre qui fait partie de la vie, c'est quelque chose qui doit être en travail dans nos sociétés, c'est quelque chose qui nous traverse tous à un moment donné. C'est ces questionnements-là de qui j'ai le droit d'aimer, comment, jusqu'où. Est-ce que c'est comme le passage chez nous, il y a encore des gens qui disent crime passionnel pour féminicide, et les mots sont importants. Les mots veulent dire des choses et nous projettent dans une façon de raisonner avec le monde. Si on appelle ça un crime passionnel, ça veut dire qu'il y a de la passion, ça veut dire que aimer peut mener à la mort, ça veut dire que on risque sa vie en se laissant aimer par quelqu'un. Quand on dit féminicide, ça ne veut plus dire la même chose. C'est comme un homicide, c'est un meurtre, c'est tout, ça n'a aucune justification. Et aucun meurtre n'a de justification. Donc c'est le pouvoir et le devoir d'utiliser les mots, c'est important pour moi de garder cette réflexion-là et de l'entretenir et de la partager. Donc parfois, poser les mots sans les chanter, c'est aussi une démarche qui a pour but de les poser simplement au regard des gens et qu'ils en fassent ce qu'ils doivent avec ou sans, peu importe. Ils font leur chemin, mais voilà, c'est de moins les enrober aussi parfois.
On avait parlé lors de l'émission en 2020 du recueil S'appeler le chien. Oui. Est-ce que je le dis bien?
S'appeler le chien.
Ah, S'appeler le chien, voilà, tu vois, le temps a passé, j'ai un peu, voilà. Alors, as-tu depuis 4 ans de nouveaux textes publiés de cette manière? Et puis, également, tu avais évoqué le fait d'écrire en roman. Est-ce que tu as été dans cette voie d'une écriture sans musique?
Alors, oui, c'est drôle parce que là, j'y reviens. J'avais laissé ça de côté, le roman. Il est commencé depuis un certain temps et puis je l'avais laissé de côté. Et ce questionnement-là revient. Je pense que c'est le temps que je m'y mette, peut-être. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là-dessus aussi. Et parce que la musique prenait beaucoup de place et j'en avais moins pour l'écriture d'un roman ou d'autre chose. Mais est paru aussi là on a refait un corpus de textes différents avec les textes de S'appeler le chien. Donc d'ailleurs c'est le titre est en français et c'est S'appeler le chien. Mais voilà, c'est une réédition dans un corpus de textes augmenté. C'est-à-dire, il y a quelques nouveaux textes et puis il y a une correction de ces textes-là. Voilà, donc j'ai relu et j'ai changé quelques petits trucs.
Ok. D'accord. On va écouter Longose.
Oui.
D'accord.
Absolument.
Allez, c'est parti.
Longose, longose.
les salue l'angoisé. L'angoisé, l'angoisé là. Alors Luc donne pied de poil, l'angoisse y cache la poche sous notre long bras.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Les Oreilles Libres avec aujourd'hui, avec nous, Anne Waro.
Bonjour.
Alors, on vient d'écouter le morceau Longose. Il y a un clip réalisé pour ce morceau.
Oui.
On t'y voit danser avec d'autres danseuses. Est-ce toi qui as créé la chorégraphie, puisque tu parlais de chorégraphie, oui, là, justement, au début de l'émission. Peux-tu nous parler de ton rapport au corps et à la danse?
Oui, bah, ça a commencé, en fait, j'ai pas eu une pratique de danseuse en tant que telle dans ma vie. J'étais plutôt vers les arts martiaux, donc beaucoup d'aïkido, mais dans un sens que c'est assez proche de la danse. Et puis la danse, j'y arrivais par le biais du maloya, qui est une musique qui est intrinsèquement liée à la danse, à la terre, au rapport entre la terre et le ciel. Et puis à une espèce de force militante comme ça. Et la première chorégraphie que j'ai faite, elle, pour moi, elle disait l'inceste, parce que ça commençait simplement par un genou qui se dérobe. Et c'était le début de la chorégraphie, c'était, ça partait de ça. Comment le souffle se replace quand le corps s'en va, quand le corps n'a plus de prise sur le sol, quand il tombe d'une façon, quand une partie du corps nous trahit. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc le départ de la chorégraphie, c'était celui-là. Et j'avais beaucoup de mis les codes du Maloya, un peu de danse contemporaine, mais beaucoup aussi des arts martiaux. Donc il y avait trois danseuses, il y avait ce rapport du coup à l'aïkido, qui est un art martial circulaire, qui considère que celui qui t'attaque n'est pas ton adversaire. Ni ton partenaire d'ailleurs, c'est une énergie qui arrive et en fait tu es juste sur son chemin. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter, tu peux pas l'arrêter frontalement, tu vas l'accompagner en fait, cette énergie pour toi te protéger et protéger l'autre aussi qui t'a attaqué. Et je trouve cette philosophie très intéressante et très importante, notamment dans quand on aborde l'inceste, parce que c'est intrafamilial, c'est des liens proches, c'est souvent des gens qui ont une autorité ou dont on a un lien quand même un lien affectif assez fort aussi. Mais cette personne nous attaque à un endroit qui est dangereux. Et comment se défendre de ça? Et je trouve que la perspective de se dire que quelque chose qui nous attaque n'est pas forcément dirigé contre nous, ça nous aide aussi à avoir du recul pour se dire « Bon, quels moyens je peux trouver autour de moi pour rediriger ces choses-là? Comment je peux demander de l'aide sans avoir l'impression de trahir l'autre aussi, et de dire « C'est même pour l'accompagner presque que je vais porter plainte. C'est pour l'accompagner que je vais dénoncer ce qu'il m'a fait. C'est pour l'accompagner encore une fois que je vais dire « Écoutez, il a un problème. » Et je trouve que c'est très important cette notion, parce que ça réhumanise quelque chose et ça fait en sorte que peut-être on peut proposer quelque chose à ces agresseurs, à ces auteurs d'agression qui parfois se battent contre eux-mêmes parce qu'ils veulent pas forcément passer à l'acte. C'est pas forcément une volonté de leur part non plus, mais ils sont malades. Et tant que la société considère que ce sont des monstres et pas des gens malades, on va pas s'en occuper et on va pas leur mettre à disposition des choses, des warnings, des choses où ils peuvent, par exemple, téléphoner un numéro vert ou avoir de l'assistance quand ils sentent qu'ils ont un penchant qui est pas dans la norme, qui est quand ils ont des problèmes et quand ils ont peur de passer à l'acte. Et je pense que cet accompagnement-là est très important.
Et donc longose, c'est aussi le titre de l'album.
Oui.
Ça signifie quoi?
Longose, c'est une plante invasive. C'est une grosse. Ça fait une grosse fleur jaune en grappe un peu, qui a une odeur assez forte. Et on en retrouve de plus en plus dans les hauts de l'île, dans les forêts tropicales humides. Et un peu sur le bord des routes, enfin c'est une plante qui est arrivée il y a quelques années et qui envahit un peu le paysage. Et c'était toute une réflexion sur à quel moment on peut accueillir l'autre et de quelle façon. Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre? Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une invasion quand l'autre vient? Et pourquoi on ne sait pas l'accueillir? Et du coup c'était une recherche un peu sur sur les limites aussi de parfois de certains militantismes qui amènent vers le rejet des autres, qui amènent vers même un rejet de soi, par exemple, d'une partie de soi, quand ça devient un dogme, quand le combat militant devient un dogme, il faut rester vigilant. Tous les combats ont leurs limites et tous les combats sont important à mener, mais il faut rester vigilant dans la façon de le mener. Il faut pas que la façon, la forme prime sur le fond. Il faut pas que bref, c'était toute une réflexion là-dessus sur comment être assez solide pour pouvoir être dans l'ouverture, accueillir l'autre et tout en restant soi en fait, sans se désagréger nous-mêmes en fait. Donc c'était une réflexion autour de ça et je trouvais que passer par les plantes qu'on considère ou pas invasives, je trouvais que c'était doux et que ça avait beaucoup de sens aussi sur et d'accepter aussi que nos forêts changent de nature, donc que nous aussi on peut changer, que l'apport de l'autre nous apporte aussi quelque chose de nouveau. Et voilà, c'était autour de ça.
Et en parlant de l'autre en fait et oui. de de l'invasion de l'autre. Selon toi, quels sont les stigmates de la colonisation française à La Réunion? Comment ça se traduit aujourd'hui?
Bon, ça se traduit dans pas mal de choses, mais c'est un peu comme un zoom sur un certain patriarcat ou paternalisme, en tout cas. Un genre de paternalisme de la France. Ça se traduit dans plein de choses. Donc, il y a un peu la fuite de nos intellectuels, on va dire. La formation de nos jeunes se passe ailleurs. Ils ont du mal à revenir. Il y a une espèce de... Alors, il y a beaucoup d'extrémisme qui monte chez nous, donc ça nous fait peur aussi parce que les FN ont fait des records monstrueux alors qu'on prône un espèce de vivre ensemble, une espèce d'ouverture comme ça qui, en fait, est pas toujours très... Elle se trouve pas partout. C'est-à-dire que le racisme ou le rejet de l'autre se ressent dans des certaines... Alors, des fois, c'est sous des traits d'humour. C'est banalisé, en fait. C'est quotidien, banalisé. Donc, c'est pas forcément puissant, mais on le sent. Alors, on vit ensemble, mais il y a toujours des petites choses qui nous alertent sur le quotidien. Voilà, d'une façon de considérer telle pratique ou tel truc, de grossir certains traits. Ça passe par le biais de l'humour. Mais parfois, on sent que ça trahit quelque chose d'une peur, en fait, de perdre pied, de pas se retrouver quelque part, parce que c'est sûr que d'arriver après la colonisation, la France s'est jamais vraiment retirée. Elle est arrivée, elle a annihilé un peu ce qu'elle a trouvé sur place en disant que c'était pas des langues, c'était pas des cultures, c'était pas des machins, que eux ils venaient nous apprendre à vivre. Et ça, c'est très violent. Ça a été violent aussi dans la façon de faire. Il y avait que des champs de canne et des usines de canne à sucre. La Réunion devait produire que la canne pour l'export. Que le sucre. L'alcool restait. Et on nourrissait les ouvriers à partir de l'âge de 7 ans. Ils étaient sous tout le temps. Donc l'ivresse aussi emmène une espèce d'obéissance, d'asservissement, en fait, d'une population. Il y a eu pendant des années les femmes qui se faisaient stériliser ou avorter de force, sans même s'en rendre compte, en fait, en allant simplement à une consultation chez le médecin. Elles se retrouvaient sans plus rien, y a comme ça le contrôle des ventres des femmes, c'est assez récent, en fait. Parfois, les gens, on sent qu'ils ont une colère, qu'ils savent pas parce qu'ils ont pas, ils savent pas d'où elle vient, parce qu'ils vont pas forcément chercher, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, et le tabou fait que dans les familles, on n'en parle pas, on le transmet pas. Et ce manque d'information et de transmission, ça fait que ça donne des colères, des choses qui sont dures et que certains reprennent. Du coup, le FN peut monter grâce à ça. Il y a des mouvements extrémistes qui se mettent en place. Les jeunes sont perdus parfois, ils sont désœuvrés. Il y a beaucoup de chômage. Donc ça favorise une espèce de choses grouillantes et dont qui peut faire peur aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui intéressent à l'histoire, qui vont rechercher les choses. Il y en a de plus en plus qui se réapproprient la langue, la culture, la musique, les codes. Et ça guérit quand même. C'est un chemin de résilience et c'est très positif. Donc il y a à la fois cette peur-là, il y a ce truc qui existe, qui est là et qu'il ne faut pas nier parce qu'il faut quand même s'en occuper. Mais il y a un terreau hyper fertile et hyper... hyper curieux de jeunes qui vont à la rencontre d'eux-mêmes, de leur famille, qui font des documentaires, des pièces, des trucs sur leurs grands-parents, leurs parents, leur famille. Et ça aide à reconstituer une résilience sociale et à pallier un peu aux affres de la décolonisation un peu rapidement faite et peut-être pas assez bien faite. Voilà.
On écoute un peu de musique. On vient d'écouter le morceau pique droite. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais.
Pique droite, avance.
Oui. très bien. Alors, peux-tu nous parler de ce morceau, etc. Dis-moi.
Ouais. Ouais. Alors, pique droite, c'est Alors, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'après le premier album, on m'a beaucoup fait comme retour. T'as parlé de l'inceste, c'est super. Quand est-ce que tu passes à autre chose? Est-ce que tu vas chanter autre chose dans le deuxième album? Et je sentais cette injonction très très forte et j'avais pas envie de le faire par militantisme, de dire ah il faut que je continue le combat parce que justement on m'a dit d'arrêter, blablabla. Et en même temps j'avais pas envie de d'écrire autre chose parce que c'était pas le moment pour moi d'écrire autre chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris certains textes du premier album, certaines mélodies, et avec des jeux de dés, de contraintes, de tout ça, j'ai mis des textes à l'envers, les mélodies et tout. Et avec les musiciens, on a travaillé certains morceaux en les inversant et tout ça. Donc par exemple, dans cet album, il y a Zietor, Pic Droite et Rodarim qui sont la même base, en fait. Et du coup, Pic Droite, c'est Rodarim à l'envers. Avec des codes différents, donc c'est, on l'inverse pas toujours de la même façon, donc le rythme aussi est mis à l'envers, donc on nous a beaucoup dit qu'on faisait de la musique qui ressemblait aux musiques des Balkans à cause de ce morceau, alors ça n'a pas grand chose à voir avec, alors on peut après l'affilier, oui, le temps qui est ici, l'accent qui est là, ça fait penser à ça. Mais c'est vrai que nous, dans notre exercice, dans notre pratique, c'était de travailler cette contrainte-là, d'en faire vraiment de la matière qu'on remodèle à chaque fois et de donner une identité à chaque fois différente à cette matière qui est la même de base. Et c'était ça notre intérêt, notre objectif dans Pique Droite, par exemple, dans Rodarim et dans ces yeux torts, en fait, qui est la base de ça. Et puis il y a Pique Droite et Rodarim.
Tu dis nous, mais...
Les musiciens et moi.
Mais alors, qui sont-ils, ces musiciens?
Alors, pour Longoz, il y a toujours, d'ailleurs, Teddy Doris, qui est en trombone, et Bino Waro, qui est aux percussions. Et alors, tous les arrangements se passent ensemble, tous les trois. Ils sont des forces de proposition incroyables. Alors, c'était dur, au départ, de rentrer dans ce que je voulais, mais après, maintenant ils sont, c'est une écriture à trois, maintenant à quatre presque, parce qu'il y a Brice Noura qui nous a rejoint aux machines sur le troisième album Bleu, et donc là maintenant on est quatre, et donc il y a des propositions partout, on essaye de faire notre chemin là dedans et ça devient un exercice collectif, donc c'est hyper beau, je trouve, de passer de la rage et du cri solitaire à une équipe qui est là pour jouer ensemble, pour en faire une matière et lui donner vie, en fait, sur scène et sur album, et peu importe. En tout cas, la faire exister, quoi.
Mm-hmm. Tu parlais du troisième album, tu parlais,
oui,
de Bleu. Alors, quel est ce bleu dont tu parles, en fait? C'est quoi?
Bleu, c'est associé plutôt à l'enfance, pour moi. Autant à l'échymose qu'à la mer, qu'au ciel, qu'il y a des notions comme ça, à la fois de paysages très ouverts et de choses très fermées. Et on voyage un petit peu là-dedans, entre les deux. Il y a quelque chose de très fragile dans Bleu, pour moi, même dans la sonorité, ce brr, que je trouve qui à la fois est qui passe comme ça, qui peut se perdre et puis et qui se noie parfois. Bleu, pour moi, c'est des bulles, des espèces de choses où c'est ouaté, et à la fois on peut s'y noyer, quoi. Et cet album fait les allers-retours entre quelque chose de très intime, donc un piano-voix qu'on a l'impression d'entendre, de surprendre quelqu'un dans sa chambre, des mélodies très très enfantines, très naïves au piano, avec des moments plus presque cinématographique, un, oui, peu affirmé comme ça, avec des grosses basses, le trombone qui sonne comme un espèce de bateau qui débarque dans une tempête, enfin quelque chose comme ça de cet ordre-là, où on fait un aller-retour entre le combat et l'intime, quoi. Et c'est un perpétuel dialogue avec ça, entre l'enfance et le combat, entre l'intime et l'extérieur. Voilà.
Alors, le rapport entre l'enfance, c'est le passé. Ce passé, en fait, tu en as pas marre, en fait, qu'on en parle. Tu le mets en jeu, toujours.
Bah, de toute façon, je crois que c'est universel de toujours revenir à son passé parce qu'on n'en guérit jamais. J'ai l'impression qu'on passe des années et des années à juste essayer de guérir de notre enfance, en fait. Peu importe le degré de souffrance ou de non-souffrance qu'on a connu, on essaye toujours de revenir de notre enfance. Donc, je crois que je pourrais avoir 90 ans et avoir toujours des choses à dire sur ce passé-là. Donc, d'où l'importance aussi de protéger cette enfance, et pas de la surprotéger, c'est-à-dire de lui parler le plus tôt possible d'intégrité physique, de consentement, de limites corporelles et mentales, de protection intrinsèque, de suivre ses intuitions, en fait, de se valider lui-même, de savoir qu'il aura toujours raison quand il décidera pour lui, avec lui, par lui, de ce qu'il faut, de son chemin de vie, en fait. Et ça, on en doute vraiment de plus en plus. C'est compliqué. La parole des autres est tellement importante et en même temps, parfois, ça biaise un peu nos chemins, nos regards. Et c'est d'apprendre à faire la différence entre l'autre et nous-mêmes, entre ce qui, voilà, où est-ce que commence notre santé mentale et où est-ce que l'autre rentre ou pas dans cet espace et comment voilà, c'est, je pense que ça commence dans l'enfance, qu'il faut vraiment en parler, ouvrir des discussions sur la sexualité, la sensualité, l'autodéfense un peu, mais ça prend des outils, ça prend des réflexions, des choses à mettre en place à l'école, dans les familles, je sais pas, des associations, des choses, mais même dans la justice. Reconnaître certaines choses, c'est-à-dire qu'un enfant, peu importe son âge, si c'est l'enfant de son père, il peut avoir 40 ans, ce n'est pas du consentement s'il veut avoir une relation sexuelle avec cet homme. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui évoluent, qui prennent du temps, ça évolue, mais c'est encore loin de pouvoir pallier à tout ce qui se passe donc voilà, c'est en cheminement, c'est tout à fait positif. Mais faut s'y prendre sur tous les fronts, en fait.
Oui, tu as parlé d'intervention dans les écoles. Toi, tu interviens toujours dans les écoles?
Alors, j'ai fait des interventions dans les écoles pour aborder la notion justement d'intégrité physique, de consentement, de parler de musique, de parler de rythme, d'histoire de la Réunion, en m'adaptant évidemment au niveau, parce qu'on a fait de la maternelle au lycée, et ça a été un gros questionnement parce que les gens qui m'ont mandaté pour le faire, ce sont eux-mêmes, ils nous ont reconvoqués pour nous dire « Bon, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut parler de ça aux enfants ?» Et j'étais là-bas « Oui, et je ne vais pas en parler de la même façon aux maternelles qu'aux lycéens, mais faites confiance aux gens que vous mandatez pour le faire. » Il y a encore beaucoup de frilosité, on a peur d'aborder ces notions-là avec nos enfants, alors que c'est la seule façon de leur expliquer qu'il faut se protéger à ce niveau-là et que leur parole a un impact et que leur nom peut les sauver aussi.
On écoute Bleu.
Oui, allons-y.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, les oreilles libres avec Anne Waro aujourd'hui dans nos studios. On vient d'écouter le morceau Bleu, extrait de l'album Bleu. Alors, dans ce troisième disque, Bleu, tu joues du piano. Qu'est-ce qui t'a incité à cette évolution finalement musicale?
Alors, pour moi, c'était presque un retour en arrière au départ, de me dire je vais prendre le piano parce que c'était assumer des mélodies qui pour moi étaient de l'ordre de vraiment de l'intime, de mon autodéfense d'enfant en fait, de me couper du monde, de faire des mélodies un peu enfermées, cycliques comme ça qui tournent en boucle et qui permettent simplement de se relier à nos émotions, de se sentir vivre en fait. Et d'avoir quelque chose d'un peu doux dans un univers qui était un peu plutôt carcéral et froid, quoi, avec de la violence. Et ce piano, du coup, sur scène, il a cette place-là d'enfance un peu fragile. Et en même temps, on voit que je me bats avec. C'est-à-dire que le premier morceau, je vais tabasser le piano. Il y a un truc où il y a ce dialogue en fait qui s'instaure entre un instrument. Et je pense que c'est une donnée aussi universelle. C'est comment un jour on a de l'émotion en pratiquant un instrument, en entendant la musique. Qu'est-ce que ça nous fait émotionnellement, affectivement? Qu'est-ce que ça soigne ou que ça réveille? Et tout le monde a eu déjà un rapport comme ça avec une discipline ou avec une couleur, une musique, quelque chose. Donc ce rapport-là, il existe de façon universelle. Et là, c'est de s'immerger aussi là-dedans, de se dire, on est à ce moment-là où on découvre un outil qui nous permet de vivre le moment de façon pleine, entière et sécurisée. Sécurisante en tout cas. Mmh. Et en même temps, cet outil-là, ce piano, en tant qu'adulte, il est difficile pour moi à reprendre comme ça, de me dire, j'en ai pas joué depuis que je suis enfant, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire de ces mélodies un peu naïves? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais passer à un autre cap? Comment je vais reprendre un dialogue plus adulte avec cet instrument-là? Et c'est un peu le défi de cet album et de ce spectacle qui s'appelle Bleu. Mmh. Voilà.
Donc c'est pour ça que... Est-ce que c'est la raison pour laquelle le premier morceau, c'est un instrumental, le premier morceau de l'album?
Oui.
Ouais. Ok. Alors, comment se passe le processus de composition? Tu parlais du groupe, en fait, tout à l'heure. Donc, c'est toi qui composes ou il y a plutôt un travail plus de groupe, justement?
Alors, jusqu'à maintenant, j'amène toujours soit le texte, soit la mélodie, si c'est du piano, par exemple. Et ensuite, ils sont tous les trois vraiment force de proposition incroyable et du coup on crée ensemble. Il y a on affine des directions, tout ça. Je pense qu'après il y a un dialogue vraiment qui s'instaure entre nous quatre et des décisions qui sont prises au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une création collective. Après, c'est des arrangements qu'on décide tous ensemble, qu'on met en place. De façon collective. Mmh. Et ça aide aussi au processus de recul et puis à rendre cette parole aussi ou cette mélodie ou cette traversée plus universelle, je pense.
Où et quand et par qui a été enregistré cet album?
Alors, le Bleu.
Oui.
Bleu, alors ça a été enregistré dans les studios de Christopher McDonald à La Réunion, à la Rivière-Saint-Louis. C'est Brice Noroy, donc qui joue avec nous sur scène, qui l'a mixé aussi. Donc il a mixé les trois albums en fait. Brice, il était déjà avec nous, on va dire dès le départ,
oui.
Parce que il avait enregistré le premier album et mixé le premier album. Et puis Longoz, c'est pas lui qui l'a enregistré, mais c'est lui qui l'a mixé. Et là, pareil, il a enregistré avec nous, vu qu'en tant que musicien, et ensuite il a mixé l'album. Donc c'est aussi une histoire de c'est un processus qui continue et qui c'est des gens qui sont autour et avec qui j'aime créer. C'est un processus de long terme, quoi. C'est une construction en même temps humaine, relationnelle, qui évolue. Donc c'est ça aussi qu'on aime beaucoup. Donc voilà.
On va écouter le morceau Vanellosaure.
Oui, Vanellosaure.
Vanellosaure. Oh, c'est dur avec les E finaux, on ne sait pas comment.
Bon. Oui, en général, ils ne se prononcent pas. Vraiment.
Ok, d'accord, très bien. On vient d'écouter le morceau Vanellosaure. Anne, peux-tu nous parler du ou des labels qui sortent ce disque, comme les deux précédents, je crois?
C'est le label Cobalt, Donc c'est Philippe Conrad qui s'en occupe. Donc il a été au tout début du processus à mes côtés. C'est lui qui a trouvé aussi Teddy Doris, par exemple, le tromboniste, qui m'a proposé Bino Haro, qui est le fils de Daniel Haro, avec qui il travaille depuis 30 ans, je pense, maintenant. aux percussions. Et il a vraiment fait partie du processus dès le départ, parce que quand il m'a rencontré, il était et j'avais pas terminé ma première chanson, donc j'avais juste fait un début de chanson, et puis il a flashé, il m'a demandé de venir chanter ma chanson dans un concert de Daniel Haro devant 600 personnes. Et bon, ben, j'y suis allée, j'ai terminé ma chanson, j'y suis allée. Et le verdict, ça a été, bon, ben, qu'après, après le concert, ben, il m'a dit, ben voilà, on va travailler ensemble et il me faudrait 10 minutes de musique pour la prochaine fois. Et en fait, il a compris que il voulait entendre 10 minutes de musique. Puis en plus, après, il m'a dit, oh, il y a une scène, il faut que tu joues 30 minutes. Après, et quand je suis arrivée à 45 minutes, il a compris que j'écrivais sur demande et que j'avais pas de répertoire. Et du coup, on a créé un groupe pour le premier album. Donc, il s'est occupé très longtemps du festival Africolore. On a commencé à créer ici, donc avec Jean-Didier Waro, qui est le neveu de Daniel Waro et qui a fait Transcabar. Enfin, il a fait plusieurs choses, Section Maloya, tout ça. Et lui, du coup, il était au rouleur, percussion. Et puis il y avait Julien Rousseau et Fanny Ménégoz du Surnatural Orchestra et Willy Petre qui était là avec nous côté Réunion qui faisait les voix et d'autres percussions aussi avec Jean Didier. Et du coup on a fait une semaine de répétition avec pour le premier concert de au comptoir, je crois, à Fontenay-sous-Bois. Et c'était très chouette. Donc, on a tout de suite choisi un... Enfin, voilà, tout s'est fait en collaboration, en discutant avec Philippe. C'était important pour moi d'avoir une musique où on retrouve l'essoufflement, en fait. Où les soufflants soient là pour traduire, en fait, la participation de la danse. Pour moi, c'était ramener la danse, la respiration, le souffle dans la musique qu'on proposait. Donc ça passait par les soufflants et ils étaient traités comme des percussions. Du coup, c'est une façon de jouer qui est hyper rapide, précise, avec des amplitudes, tout ça. Enfin, voilà, ça a été c'était assez spécial ce qu'on leur demandait. Ils l'ont très bien fait. Fanny Ménégoz a un talent aussi de d'arrangeuse, de compositrice très particulier, vraiment une patte. Et elle a tout de suite aussi saisi ce que j'attendais. Elle est rentrée dans la proposition. C'était assez évident. En fait, donc on a enregistré ce premier album, mais il n'y avait pas de groupe pour le défendre. Et c'est là qu'est intervenu Philippe encore une fois pour trouver un groupe pour défendre ce premier album, donc le tromboniste Teddy Doris et Bino Haro aux percussions. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire les concerts pour défendre le premier album et à composer pour le second album ensemble. Donc voilà, ça a été tout un processus comme ça. Et c'est les mêmes depuis le début. Et voilà, ça continue. J'espère que ça continuera encore longtemps.
Ah bah oui, alors Daniel Haro, Christine Salem, Transcabar, toi-même, la musique réunionnaise est bien représentée là sur nos scènes métropolitaines.
Oui.
Est-ce qu'il y a une explication, un catalyseur à cette dynamique, tu penses?
Bah, il y a un point commun déjà. C'est que je trouve que les ceux que vous avez cités, en tout cas, ils sont tous passés par Philippe Conrad. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui tournent aussi. mais c'est vrai que il y a une demande aussi à l'international. Alors des fois, il y a le piège de se dire bon, on va faire des festivals, parce qu'on peut souvent, quand on est dans la catégorie Maloya, Outre-mer, musique du monde, on peut être un quota de festivals, donc être appelé pour faire beaucoup de festivals l'été, jouer en tant que groupe de festival, quoi. Et pour une caution genre musique du monde et tout ça. Et le piège là-dedans, c'est de pas réussir à créer aussi un nom, une entité, quelque chose sur lequel pouvoir remplir des salles sous un nom, c'est très différent que d'aller en festival. Et je trouve que avec certains artistes, Christine Salem, Jean-Marie Barré, Daniel Ouarot, je trouve que Philippe, il a fait ce travail-là de construire un nom à l'artiste et pas de rentrer dans l'histoire des quotas de festivals et d'envoyer son groupe pour jouer parce que c'est la case outre-mer et ça c'est toute une construction qui est hyper importante à faire et qu'il a la sensibilité, le réseau pour et c'est pour ça que maintenant ça fait plusieurs tournées qu'on est sous notre nom quoi, on met Anne Ouarot et il y a des gens qui viennent parce que c'est Anne Ouarot, donc pas parce que c'est un groupe de La Réunion et ça fait une vraie différence. Donc après, oui il y a une curiosité, c'est une musique qui dit beaucoup de choses, qui est restée quand même comme elle a été un peu dénigrée, un peu interdite plus ou moins à certaines périodes, elle est restée, il y a un côté un peu intact dans certaines musiques, enfin, il y a un fort potentiel, il y a un fort terreau traditionnel. Et je pense que les gens sont très ouverts maintenant, les musiciens voyagent beaucoup, ils sont très intéressés par les traditions, les musiques traditionnelles d'un peu partout. Et du coup, il y a une transmission qui se fait, une curiosité aussi. Le public a été formé pour ça aussi. En France, il y a eu tout le travail du Festival Africolore, de apprendre à écouter, à accueillir les musiques d'ailleurs. Et il y a tout un travail dont on bénéficie maintenant. Donc je trouve que ça fait partie de pourquoi on est bien représenté. Enfin, ça s'est pas fait tout seul. Il faut souligner qu'il y a des gens qui travaillent à ça depuis des années et des années, et que chaque nom qui s'exporte comme ça et qui réussit ouvre un nouveau chemin pour d'autres après. Et c'est très, c'est très très positif quoi.
Est-ce qu'il y a des aides à La Réunion pour la création telles que celles que propose la DRAC ici?
Oui, il y en a. J'avoue qu'on n'en demande pas, nous. Donc, on fonctionne un peu à l'ancienne. Si on demande l'aide aux billets d'avion, par exemple, pour les tournées, des fois, quand on fait un clip, par exemple, où il y a l'aide du PRMA. Pour nous aider à faire des clips. Après, il y a la DAC qui existe aussi là-bas et qui finance beaucoup de projets. Je déplore simplement que parfois en musique, alors nous on n'a pas eu de subvention de la DAC encore, mais je trouve que en musique quand on en a, elles nous permettent pas forcément, par exemple dans le théâtre ils peuvent avoir un linge à lumière, le truc, enfin ça permet de faire un vrai gros spectacle et nous pas toujours. Je trouve que la musique c'est un peu le pauvre du donc bon c'est un peu militant quoi. Okay. Je me dis bon, ce serait bien un peu d'égalité là-dessus à ce niveau-là.
On va écouter un morceau de Lagon Noir, L'âme sentier. Ouais, l'âme ouais. Sentier. Quoi ça.
Ouais.
Bamankata, bamankabeyiri Alvi manazate ngaya toe
Dato sojere do
Netsongo Yevi manazate ngaya toe
Dalia foto neba
Neba Mabere yibi nasono kumuwa Zibarabaye Yola jiputawa Mabere yibi nasono kumuwa Zibarabaye, zibarabaye Yola jiputawa
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, les oreilles libres aujourd'hui, Anne Waraud dans nos studios. Alors Anne, qui sont les trois autres membres du quartet Lagon Noir et de quel instrument joue-t-il ?
Alors on retrouve Quentin Biardot au saxophone et au clavier, il fait aussi des chœurs, et Valentin Secaldi à la basse. Et Marcel Balbonnet, donc aux percussions, batterie et voix. Et il chante aussi, il écrit aussi des textes, il chante en bissa.
Alors, Marcel Balbonnet, on le connaît moins que les membres de Tri Collectif. Hein.
Oui.
Peux-tu nous parler un peu plus de lui et de son instrument qui n'est pas vraiment une batterie très classique.
Oui, il mélange, il a une calebasse par exemple avec des sonailles, des trucs. Enfin, je connais pas tous les noms exacts parfois de tous ces instruments, mais et puis il le mixe un peu avec sa batterie plus traditionnelle. Donc ça dépend des morceaux, on va avoir plus de calebasse ou ça va être vraiment les deux.
Et puis c'est un chanteur percussionniste quoi. Il est très ancré dans sa tradition justement. Quand il joue dans son pays au Burkina, il joue du traditionnel quoi. Il est vraiment ancré là-dedans. Mais il a cette ouverture en fait, cette capacité d'entendre. Il a une relation de très longue durée avec Valentin Secaldi justement. Ils se connaissent très très bien pour avoir travaillé ensemble au Burkina et en France sur plusieurs formules, plusieurs projets différents pour le théâtre aussi. Donc ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Moi, je l'ai rencontré donc en même temps qu'on a mis en place le projet là. Donc c'est assez récent pour moi. Je n'ai pas tout le recul, voilà. Mais c'est une histoire aussi à la fois d'affinité, d'intuition et d'écoute. Il y a une écoute, un accueil dans ce groupe quand on joue, en tout cas qui est assez évident et c'est précieux.
Qui a été à l'origine de la constitution de la Gonde Noire? Comment vous vous êtes rencontrés puis réunis?
Eh bien, je crois que c'est Quentin et Valentin, pas trop loin, qui ont décidé de me recontacter parce qu'on s'était croisés en fait sur le tout deuxième concert que j'ai fait à Paris. Donc ils étaient venus à l'atelier du plateau, on était en duo avec Jean-Didier Warraud et moi à la voix, du coup on était juste deux. Et pour le rappel, il y a les musiciens du Surnat qui nous ont rejoints pour faire une surprise. Donc on avait joué ce soir-là, donc ça fait plus de 4 ou 6 ans, je sais plus. Ça fait un moment. C'était avant le premier album. Donc on s'était croisés à ce moment-là. Ils m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé, que voilà. Et puis on a fait nos chemins. L'année dernière, ils ont appelé Philippe pour savoir si on était intéressés, si on voulait faire un projet avec eux. Parce que je pense qu'ils avaient vu aussi que j'avais fait un projet avec Fanny Ménégos, qui s'appelait Le Sourire de la Wivre. Que j'étais plus qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait du côté de la collaboration aussi, de jouer avec d'autres musiciens, de faire des rencontres. Leur proposition est venue à ce moment-là et on a mis en place cette rencontre. Mais c'était un vrai défi parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. On s'était juste croisés très vite il y a des années. Ils se sont pris un billet en se disant bon, on va aller la rencontrer chez elle à La Réunion. Donc c'est très cher. Et puis ils sont arrivés tous les trois et on était tous un peu stressés, je pense. Mais au bout d'une heure à jouer ensemble, on s'est rendu compte que c'était très évident en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le premier morceau, moi j'avais reçu des propositions musicales et il n'y avait pas de texte ou de chant dessus, donc je ne savais même pas que Marcel chantait. Donc moi j'ai écrit des choses, des propositions, et il y a le premier morceau qu'on a testé, Garma, on l'a chanté, enfin j'ai commencé à chanter sur ce qu'il proposait, et puis quand j'ai fait une pause à un moment donné, je réfléchissais et puis Marcel a commencé à chanter lui aussi et je me suis rendu compte, ah oui, il a des parties de chant dessus, et on a placé nos textes comme ça et ça marchait super bien, c'était hyper évident. Et quand on en a parlé après, on s'est posé la question, tu chantes quoi, qu'est-ce que tu racontes, on s'est rendu compte qu'on chantait la même chose mais d'un point de vue différent, mais que c'était le même thème qu'on avait choisi, alors que on s'était jamais parlé de ça. Donc il y avait quelque chose d'un peu magique qui s'est passé quoi, donc c'était beau.
Justement, alors c'est toi qui écris les textes? Qui compose la musique? Comment s'envisage tout ça?
Je pense que c'est beaucoup Valentin et Quentin qui composent, qui proposent les cadres, parfois les mélodies aussi, enfin très souvent. Ils font le cadre mélodique, la base de la composition. Et Marcel aussi aux percussions, il fait sa partie, quoi. Il teste des choses dessus. Et puis, moi, quand j'ai reçu les propositions, c'était déjà un peu mis en place comme ça. Et du coup, j'ai écrit des textes pour coller. Et des fois, il y a Valentin qui avait écrit certaines mélodies où là, j'ai écrit pour sa mélodie. Donc, j'ai mis des paroles sur les mélodies qu'il proposait. Donc, c'est un travail très différent de celui que je fais dans mon quartet, par exemple. Mais c'est très... c'est chouette parce que ça ouvre d'autres horizons. Je me retrouve à chanter en français, en créole, en québécois aussi. Enfin, je m'amuse avec plein de choses. On a même un texte qui est comme une sorte de visite guidée en langue des signes. Donc, on s'amuse, ça ouvre plein d'autres horizons. Et il y a quelque chose aussi que j'adore dans la façon de Quentin de jouer du saxophone, qui est assez arraché, très assez viscéral, que j'adore parce que ça porte un chant qui moi je peux plus pousser aussi. On est tous les deux à frotter parfois des. Enfin, je trouve ce dialogue-là hyper intéressant, très. Ça m'emmène ailleurs, quoi.
Alors, comment on fait pour écouter la musique de Lagon Noir si on ne peut pas venir au concert?
Faut venir au concert d'abord. Faut d'abord dire ça, qu'il faut venir au concert.
Il faut venir au concert.
Et puis, pour ceux qui vraiment ne peuvent pas, on a un clip en ligne pour l'instant, un live en fait, qui s'appelle Marais. Donc Lagon Noir, Marais. Et on a juste sorti pour l'instant L'âme sentier, qui est un des titres, voilà. Mais je pense que... Alors, je j'ai pas encore toutes les infos, mais je crois qu'on réfléchit à enregistrer quelque chose. Je sais pas encore comment ni quand, dans quelles conditions. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place et que la musique sera accessible à un moment donné... pour ceux qui ne viennent pas au concert, par exemple.
Mais ils viendront, tout le monde viendra.
C'est un travail. Donc je peux pas vous dire encore beaucoup de choses là-dessus.
D'accord. Mais on va écouter donc La Marée de Lagon Noir.
à t'es là même. L'endroit à mon tapa patte sans mon des pieds en racine. Moi t'es pour perdre l'air si mon pâte à pâte en rond roulé comme un volet. Mon cœur t'es y battre dans mon dos, à t'es à la même. Moi la vol chômée d'un fait noir la nuit. Battement mon corps devant Naco. Moi t'es pas paré pour ça que moi t'es pas encore imaginé. Bâton rouvé d'autre côté, face à face moi-même. Mon vis-à-vis, la ligne au plaît. Comme la mer y monte, moi descends, va-t'y viens la marée dans mon corps, bord en bord, mon ravi débordé. Comme la mer y monte, moi descends, va-t'y viens la marée dans mon corps, bord en bord, mon ravi débordé. En brise.
Quelles sont tes prochaines créations? Peux-tu nous parler de tes idées, de tes envies artistiques?
La bande noire, le quartet de bleu et je travaille sur plusieurs choses, notamment terminer peut-être un roman. Et puis un peu plus dans l'audiovisuel aussi. Il y a quelque chose du côté des films, enfin, et de la bande dessinée. Donc c'est encore très récent, donc j'en parle pas beaucoup, mais voilà, il y a une recherche de ce côté-là, et on va affirmer ça dans les prochains temps, les prochains mois. Donc à suivre.
Oh là là, on a envie d'en savoir plus. Alors après le concert à la Courneuve où tout le monde va venir. Avec la Gond Noire, quelles sont les dates où on pourra venir t'écouter, te voir?
Alors, après la Courneuve, on va jouer à Marseille, au Babel Med, et puis à côté de Grenoble, à Chambly, pour le festival Tour de Babel. Ensuite, ça ira à l'été. parce que je rentre à La Réunion. Et on revient cet été. Donc, je crois qu'on sera à Noirlac. J'ai pas les dates en tête, mais ça va être Noirlac. Tout va être sur les sites internet. On va essayer de mettre les choses à jour. Et puis, on fait le festival des vieilles charrues en juillet. Le 14 ou le 13. Je suis pas très à jour dans les dates. Mais on fait le festival des vieilles charrues. Vous pourrez trouver sur les affiches là, le nom. Et donc, on a quelques tournées qui sont en train de se monter, en fait. Comme c'est en cours, j'ai pas encore toutes les dates ou les confirmations, mais c'est en train de se monter. On aura une tournée cet été. Et puis, une à l'automne et cet hiver vers février. Voilà, il y a quelque chose qui se dessine dans ces tranches-là. Donc, voilà, ça sera plus précis un peu plus tard. C'est en cours de montage.
D'accord. Bah, écoute, Anne, c'était une joie de t'accueillir dans nos studios.
Merci.
On va se quitter alors sur un extrait de l'album Bleu, Lac au Tab. Alors, on se quitte, on se dit au revoir, Anne.
Au revoir, merci
beaucoup.
À tout
bientôt. Au revoir.
Merci.
Quel coronavirus, quel coronavirus, quel coronavirus, quel coronavirus.